l'atelier.
Moi, je dis rien, moi. Rien à dire.
On apprend à faire de la radio sur radar. L'atelier. L'atelier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous connaissez ce générique qui signifie qu'on va bricoler, on va chercher à faire de la radio. On apprend depuis bientôt 4 jours, même 4 jours complets, à faire de la radio avec le service jeunesse de la mairie de Fécamp et ce centre aéré dans l'école Albert Camus. On est en compagnie aujourd'hui de l'élite de l'ensemble des groupes qui auront fait... J'arrive. Parce qu'on me presse derrière la technique, on me dit « Oui, mais alors attends, mais c'est parce que j'ai mon petit déroulé à moi, t'inquiète pas, ça arrive. » Donc, je disais... Il faut bien que je présente un petit peu l'ensemble de l'émission. On est avec la crème de l'élite, disais-je, puisqu'on a fait une petite sélection, on s'est permis de sélectionner, on va dire, ceux qui se sont le mieux débrouillés durant tous ces ateliers qu'on a fait depuis le début de la semaine. Et on est toujours sur le thème de l'espace. Et là, on va vous présenter vraiment une émission qui a été rédigée en une heure, top chrono, montre en main. Là, ils sont aguerris, ils sont au taquet, ils ont l'esprit aiguisé. Et voilà, on va déjà les présenter autour de cette table. Donc, il y aura Nathan. Salut Nathan, comment vas-tu ?
Ça va bien.
Ça va bien. Et est-ce que tu es content d'être là ce matin ?
Oui.
Ouais, tu étais motivé à mort déjà hier pour ta chronique sur la NASA et l'ISS. Et là, aujourd'hui, tu nous as préparé un truc sur les ovnis. On va revenir vers toi le temps de présenter encore un petit peu Elina qui nous parlera des galaxies. Salut Elina.
Bonjour.
Super content de te retrouver pour nous parler des galaxies ce matin. Tu étais motivé aussi, ça va bien ?
Oui.
Super. Juste à côté de toi, nous avons Kaïsa qui va nous parler des trous noirs. Salut Kaïsa.
Salut.
Ça va bien ?
Ouais.
Alors, hier t'étais un petit peu... sais pas trop si je vais venir et tout machin. Et là tu te dis non. Là aujourd'hui, je remets le couvert et je vais tout défoncer quoi.
Ouais.
Ok, donc ça va être super. Les trous noirs, on va parler aussi avec Clémence des milliardaires. Salut Clémence.
Salut.
Comment tu vas ?
Bien.
Ouais, t'es contente d'être là aussi ?
Oui.
Ça fait un peu privilégié d'être sélectionnée quand même. Hein. Non, ou pas ?
Au début, j'étais pas sûre de venir. J'hésitais un peu parce que je voulais rester avec ma copine et elle avait pas trop envie de venir.
Ouais.
Mais après, je me suis dit, mais ma copine, je pourrais l'avoir après. Et ça sera fini cet après-midi.
Et ouais.
Alors qu'avec ma copine, je peux y rester tout l'après-midi.
Et c'est une excellente réflexion que tu t'es fait. Et moi, ça me fait super plaisir que tu aies eu cette petite idée, ce regain de motivation pour venir nous rejoindre. Tu vas nous parler des milliardaires dans l'espace, un truc de dingue. Et puis, pour compléter un petit peu ce tableau, alors cet atelier a été supervisé un petit peu aussi, on va dire. On va citer un peu les animateurs. Tiens, on va donner un peu la parole vite fait à Thomas qui nous aura accompagné une partie de cette semaine. Salut Thomas.
Salut, tu vas bien ?
Ouais, ça va toujours bien quand on fait des super ateliers comme ça. Thomas, toi, tu es un des animateurs. Est-ce que tu peux citer un peu l'ensemble des équipes qui nous ont suivis ? Je sais qu'il y a Pierre, je sais qu'il y a...
Il y a eu Juline, il y a eu Eddy, il y a eu moi, il y a eu qui d'autre ? Fabien qui a un peu intervenu aussi, je pense, avec les enfants.
Alors, il est passé faire des coucous ouais. Comme ça de temps en temps, mais voilà.
Après... Et Kaigo, un peu tout le monde est venu donner un coup de main.
Voilà, et c'était super sympa de vous avoir. Vous avez été plus ou moins impliqués. Enfin, y en a eu pas mal qui étaient motivés. Toi, tu as été vraiment au taquet sur le truc.
Oui, et puis le côté très impressionnant, c'est le retour de chaque enfant qui sont... Ils ont été super, quoi.
Ouais, ils sont vraiment super. Puis là, je te dis, encore une fois, on a la crème de la crème. Là, on va avoir, je pense, vraiment une super émission. Et puis, en parlant de crème de la crème, de l'élite des élites, de celui que j'aimerais ne plus avoir à présenter, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin ? Warren.
Non, il n'y a plus besoin, moi, ça y est,
voilà.
C'est fini.
Warren bénévole donc,
sur
Radar, est complètement devenu accro, mordu de la radio. Je pense, est-ce que tu vas finir par en faire ton métier ?
J'aimerais bien.
Ce serait sympa.
Ce serait moi, ça serait nickel.
Voilà, alors, les enfants, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est de finir par avoir cette espèce de motivation. motivation qu'a Warren de venir nous rejoindre tous les jours et de s'intéresser, de carrément se taper l'incruste dans les ateliers qu'on mène, de venir et puis proposer des jingles, proposer des émissions, proposer toujours un coup de main.
Des
ça
projets,
fait toujours vachement plaisir d'avoir Warren à notre côté. Voilà, ça c'était pour la grosse présentation de la grosse émission autour de l'espace. On va attaquer tout de suite avec, comme on a dit, Nathan. Nathan, on t'écoute sur le sujet des ovnis.
Ok. Alors, OVNI est l'acronyme de objet volant non identifié. La plupart du temps, on imagine que les ovnis sont des soucoupes volantes. Et si on pense ça, c'est parce que les premiers témoignages a dit on dirait une soucoupe volante, une soucoupe qui vole. Donc voilà d'où vient le mot soucoupe volante. On pense que des extraterrestres viennent nous visiter, mais ce n'est pas forcément ça parce qu'on ne sait pas si les extraterrestres existent. Et aussi, il faut que les longs voyages dans l'espace soient possibles pour nous comme pour eux. Mais les planètes sont trop éloignées de la Terre. Les ovnis peuvent être aussi des drones ou de la pollution spatiale qui retombe sur la Terre. Il existe des applications comme phénomène ovni et l'ovni pour les personnes intéressées. Toutes les armées du monde ont peur de ces phénomènes et ils s'y intéressent de près car ils craignent pour la sécurité de la population
terrestre.
La population terrestre parce que ils se méfient de ce qu'on ne connaît.
Ouais, tout le monde se méfie finalement de ce qu'on connaît pas. Super, merci beaucoup Nathan pour ces précisions et toutes les recherches que tu auras pu faire sur les ovnis. Alors, vous avez entendu un petit peu la chronique de Nathan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a parmi vous, est-ce que vous pensez que les ovnis sont plus des extraterrestres qui viennent nous visiter ou c'est plus des débris ou des drones ou des choses qui seraient un petit peu plus terrestres ? Qui serait plus pour quelle version ? Vas-y.
Moi, je suis pour les extraterrestres qui viennent nous visiter.
Toi, tu serais plus pour les extraterrestres qui viennent nous visiter.
Oui.
Et comment tu penses que ça peut être possible pour eux de venir ? Tu penses qu'ils ont une technologie plus performante que la nôtre ?
Oui.
Ouais. Ouais.
Et tu penses qu'ils sont gentils, qu'ils vont venir, puis qu'ils vont...
Non.
Non. Ah. Tu penses que c'est des extraterrestres méchants ?
Oui.
Ils vont tous nous manger ?
Non, pas quand même.
Non. Ouais, ils pourraient, ouais. Alors, Clémence.
Moi, je pense. Moi, je suis d'accord avec la situation d'Elina.
Sa réflexion, en tout cas, de la réflexion d'Elina, ouais.
Bah, parce que les débris, je vois pas comment ça pourrait faire une genre de soucoupe comme ça.
Ah, alors, c'est pas forcément des soucoupes, en fait, c'est des objets qu'on n'arrive pas à définir. Ça peut être, ça ressemble ni à un oiseau, ni à un avion, ni à un hélicoptère. C'est pas quelque chose qui vole qu'on peut définir tout de suite. C'est pour ça qu'on dit que c'est non identifié, parce que ça ressemble à rien en fait. Donc ça peut être un débris qui vole et puis qui se déplace bizarrement. Alors Nathan, il a peut-être son avis là-dessus.
Alors moi, je pense qu'on ne peut pas savoir vraiment parce que on ne sait pas si les extraterrestres existent. Où on ne sait pas comment les ovnis peuvent être créés ou comment on peut... Je ne sais pas trop quoi dire, mais...
on ne peut pas savoir exactement ce que c'est.
On ne peut pas savoir ce que c'est, voilà.
Voilà, et du coup, toutes les suppositions sont possibles. Alors forcément, comme tu l'as dit, quand on a découvert ce truc-là dans les années 50, en gros, parce que le phénomène vient de là, mais on peut remonter à beaucoup plus loin. Je pense aux plaines de Nazca. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En Amérique du Sud, il y a les Incas qui ont fait, dans des grandes plaines, des chemins avec des cailloux. Et on ne voit les dessins que quand on est dans le ciel, et ça représente des animaux, des singes, des araignées, des oiseaux. Et il y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est pour attirer des vaisseaux extraterrestres.
Ça, ou même dans des champs aussi, il y a pas mal de...
Ouais, alors ça, il y a eu de beaucoup de trucs qui ont été démontrés, comme quoi voilà, c'était du gros fake, et qu'il y a même des artistes maintenant qui font des formes...
Voilà.
Mais comme disait Nathan, voilà, ça porte à débat. Ça peut. On n'a pas demandé son avis à
Kaïsa.
Kaïsa, non, t'as pas d'avis toi sur la question. T'as pas envie de ça. Les ovnis, c'est pas trop ton truc. Ça marche. On continue avec Elina et on va aller un petit peu plus loin. On va quitter la Terre, un petit peu la vision qu'on a et on va rentrer directement carrément dans la galaxie.
Une galaxie est un ensemble d'étoiles, de poussière et de gaz interstellaires dont la cohésion est assurée par la gravitation. La galaxie ressemble à une nébuleuse en forme de spirale. Notre galaxie se trouve dans ce qu'on appelle le groupe local. Au-delà de la Voie lactée, des galaxies s'étendent dans toutes les directions, mais du fait de la gravité, une trentaine d'entre elles, dont la nôtre, appartiennent à une famille aux liens plus ou moins lâches. C'est ce qu'on appelle le groupe local. Dans le groupe local, on trouve une galaxie d'Andromède qu'on peut voir à l'œil nu et qui se trouve à 2 millions d'années-lumière de nous.
Super. Alors là, on est arrivé sur la fin. Je pense qu'il n'y avait pas un truc sur notre propre galaxie où tu n'as peut-être pas eu le temps.
Il n'y avait pas trop d'informations.
Il n'y avait pas trop d'infos qui t'intéressaient, d'accord. Ça aurait été bien.
Notre galaxie. Je ne sais pas si tu l'as dit, comment qu'elle s'appelle notre galaxie ? Car tu parles de notre galaxie, la galaxie, mais comment qu'elle s'appelle ?
La Voie lactée.
Ah ouais, quand même. On a ça au moins. super, merci en tout cas. On a appris un truc. Moi j'ai appris un truc, je ne savais pas qu'il y avait un groupe local dans lequel on...
En fait, c'est vraiment classé comme sur Terre, avec, on peut voir sur Terre des continents, pays, régions, départements, villes, quartiers, etc. Dans l'espace, c'est exactement la même chose, avec la Super AMA, le groupe local. Ensuite, on a les galaxies. Les groupements d'étoiles en fait dans une seule galaxie. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite on a les systèmes, le système solaire, etc.
Voilà, dedans.
Dedans encore.
Alors il faut qu'on précise aussi à nos auditeurs que l'ensemble des informations, on a été les glaner intelligemment, parce que ça fait partie aussi du travail de rédaction, c'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre aux enfants qui participent à l'ensemble de ces ateliers à chaque fois, que les informations, en fait, il faut les recouper. Donc c'est un travail qui est très très long. Il faut bien se rendre compte que là, ils ont fait des gros efforts. Alors pas que ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui, mais à chaque fois que vous entendez une émission de l'atelier, à chaque fois, il y a un gros travail de recherche qui est fait. Et on essaye de s'appliquer à trouver des infos véritables. Donc c'est pour les plus petites bases ou les définitions, ça part sur un dictionnaire Larousse ou Petit Robert. Et puis après, c'est pas du Wikipédia recopié bêtement. On va vraiment chercher sur Internet, sur des sites, là pour le coup scientifiques.
National Geographic.
Pour les galaxies, c'est National Geographic. Pour tout ce qui est les milliardaires, on a été éplucher des articles de l'Express, du Point. Il y a eu.
Les trous noirs, c'était. Chroniqueurs.
Des chroniqueurs comme Poisson Fécond, mais qui se documentent eux-mêmes auprès de
faits scientifiques
avérés.
Tout ça.
Donc on fait en sorte que tout ça vous raconte pas n'importe quoi. Merci en tout. Est-ce que vous avez des questions sur la galaxie ? Oui. Est-ce qu'on sait combien elle mesure, notre galaxie ? On sait que Andromède, c'est à 2 millions d'années-lumière de nous, que ça fait partie de notre galaxie, mais notre galaxie en elle-même, est-ce qu'on sait la taille ?
Non, moi, je ne sais pas.
Tu ne sais pas ? Est-ce qu'on peut trouver ça ? Alors, Warren, il s'est précipité sur le document national géographique.
Alors, je vous le trouve tout de suite.
Voilà, alors il est parti. Et donc, est-ce qu'on va réussir à meubler jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'on fait... Alors, on va faire... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale où on vous donne l'info juste après. Ça marche ? On va faire ça. Donc, la petite pause musicale, histoire de faire un petit break. Ça s'appelle... on a pris encore une fois une musique en rapport avec l'espace, évidemment. C'est Air, le groupe Air, avec le titre Surfing on a Rocket. Donc, faire du surf sur une fusée.
Et tu vois pas le truc, quand même.
Ouais, ce serait
surf
classe.
Sur une fusée.
Si tu veux bien monter le volume de la musique, pas on se retrouve soucis. Tout de suite après avec... avec Keïsa pour les trous noirs et Clémence pour les milliardaires dans l'espace.
C'est la classe.
C'était Air à l'instant avec le titre Surfing on a Rocket, complètement dans le thème de l'espace. On retourne sur le plateau de l'atelier avec Nathan, Elina, Keïsa, Clémence, Thomas de temps en temps et puis Warren à la technique et à la co-animation de cette dernière émission, de ce dernier atelier de la semaine autour de l'espace. Et on s'éclate. On continue. On avait une info à vous redonner.
Oui, du coup, en fait, j'ai vérifié pour la galaxie.
Donc la taille de la galaxie.
Et c'est 500 000 années-lumière De large.
De large. Donc, alors, est-ce que ça vous donne une petite idée? Comment vous imaginez 500 000 années-lumière en distance?
Pas très, très long.
Ouais.
Enfin, c'est
mais long
archi...
comment?
Genre, je sais pas comment dire, mais c'est déjà... Ouais. Plus que ce qu'on pourrait imaginer.
Ouais, c'est super difficile de s'imaginer ça.
Je pense que c'est vraiment énorme. Et je pense qu'on pourrait jamais faire cette distance, même si on était éternel.
Ouais, ben bah non, ça c'est clair qu'on pourrait pas faire du tout la distance. Voilà, ça nous donne... Enfin, c'est alors, inimaginable.
Du coup,
déjà.
Là, je suis en train de vérifier.
Ouais.
En sachant que c'est 300 000, combien t'as dit ?
300 000 km secondes, la lumière.
300 000 km secondes ?
Oui.
Oh, mince. Alors, on va faire 300 000, du coup.
Et en train de se lancer dans des calculs.
60 fois 24 fois...
Qu'est-ce qui compte ?
30 fois 12.
Ouais.
En une année, la lumière parcourt... 9 331 milliards à peu près de kilomètres.
Attends,
331 000 milliards.
Mais attends, mais non, c'est pas possible. Les millions sont pas avant les milliards.
Non, c'est des millions de milliards.
Ah, des millions de milliards de kilomètres.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont avant.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est en combien de temps on peut traverser la galaxie au final. Tu vois, les 500 000 kilomètres, les 500 000 années-lumière, ouais, en combien de temps on peut les traverser ?
En longtemps.
Voilà.
Voilà, et vous avez votre réponse.
Si vous êtes fort en maths, faites-nous le calcul, envoyez-nous une suggestion sur Facebook, etc. radar.ransort.com, vous avez la page Facebook, et puis vous allez nous dire tout ça. Bon, on s'égare, cher ami, là, ça ne va pas du tout, ça.
On s'égare.
Keïsa, les trous noirs, on y plonge ?
Ouais.
C'est parti.
Il existe... De trous noirs. Les trous noirs supermassifs sont les plus grands des trous noirs. Leur masse est jusqu'à 1 million de fois plus importante que celle de notre Soleil. Le trou noir supermassif de la Voie lactée s'appelle Sagittaire A étoile. En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel.
Il est dur à dire celui-là.
Ouais, il est
gravitationnel.
C'est pas cool celui-là. Ouais.
C'est
pas grave, on l'a compris. C'est gravitationnel. Le champ gravitationnel est tellement intense que.
Toute forme de matière ou de rayonnement de s'en empêcher. Qu'est-ce que ça fait de tomber dans un trou noir ?
Ouf.
Pour l'instant, aucun homme, aucune machine a été jusqu'à un trou noir. Et un trou noir est un objet stellaire. Les trous noirs absorbent tout, même la lumière. Il peut aspirer une étoile entière, même la totalité d'un système solaire. Pourquoi la lumière est attirée par les trous noirs ? Les rayons lumineux qui se propagent en ligne droite à travers l'espace donc s'innovent de façon notable en passant à proximité d'un trou noir. La lumière est donc déviée en direction de la source gravitationnelle et elle le faut de manière détectable pour nos télescopes. Qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir ? C'est le phénomène de l'antigravitationnel qui augmente la taille apparente de certaines régions, notamment de celles situées exactement derrière le trou noir. Un objet entendu comme une galaxie située à l'arrière-plan apparaît plus gros.
Ah, ça fait un effet de loupe en fait. Alors c'est un peu compliqué parce que...
Oui.
Elle n'était pas facile, ta chronique. Et Thomas, avant qu'on se lance dans ce sujet-là, l'avait prédit. Il avait dit, attention, les trous noirs, c'est casse-gueule.
Ah bah,
c'est pas facile. Et alors, tu t'en es bien sorti. Je pense que bon, t'as recopié des petits trucs. Il y a des choses que tu n'as pas forcément compris
pas,
dans
ouais.
ce que t'as, dans Et ce que t'as dit.
Comprends.
Mais en gros, est-ce que t'as compris finalement l'ensemble de ce que c'est un trou noir, quand même, malgré tout? À peu près. Avec tes mots à toi, ça donnerait quoi ? C'est quoi un trou noir ?
Dans l'espace, bah, y a un trou.
Il y a un trou et il y a plein de trucs qui tombent dedans.
Ouais.
Même la lumière, elle tombe dedans.
Ouais.
Et c'est ça qui n'est pas facile à s'imaginer, en fait. C'est que la lumière, elle soit aspirée. Comment on aspire la lumière ? C'est bizarre. Alors toi, tu voulais dire un truc, Clémence ?
J'ai une question.
Ouais.
Si aucun homme et aucune machine n'ont pu... n'ont jamais vu. Alors comment on sait que ça existe ?
Alors c'est pas qu'ils ont, ils en ont jamais vu, c'est qu'ils sont jamais rentrés dedans.
Et même s'ils étaient rentrés, on n'aurait pas pu faire ressortir les informations.
Alors attends, Kaïsa veut... Non, tu veux pas. Alors, Elina, ouais.
Sais-tu à que... Enfin, ça fait quelle taille un trou noir ?
Ah.
Oula, je sais pas.
Tu alors, l'avais tout à l'heure.
Ouais, tu l'as dit en fait dans ton truc. Il y a les trous noirs super massifs. T'as commencé par ça. Donc en fait, ils ont différentes tailles.
C'est ça.
Ah oui, ils sont les plus grands trous. Plus grands de tous les trous noirs.
Ouais, les super massifs, c'est les plus grands.
Et donc, du coup, ils font à peu près quelle taille ? T'avais vu ? Par exemple, le nôtre,
22 milliards.
C'est pas trop ça. Mais c'est pas grave.
Je l'ai pas marqué.
Ah, c'est pas très
mais
grave.
Mais dans tous les cas, on peut pas savoir quelle taille ça fait, vu que personne n'est jamais rentré et n'est jamais ressorti.
Il y en a que un qui est rentré dedans.
Alors, qui c'est qui est rentré dedans ?
Je sais pas.
Non, personne n'est jamais été...
Eh non, on n'a jamais été dedans. Alors Thomas, tu voulais apporter un truc.
Et pour répondre à ta question, Clémence, il y a des super télescopes un peu partout dans le monde qui permettent de les voir, en fait. C'est pour ça qu'on peut plus ou moins, avec notre petite lampe et notre petite loupe, de voir ce qu'on voit super au loin, en fait.
Ouais, c'est ça le truc. Et puis, là, c'est le seul truc, la taille d'un trou noir, comment ça se mesure ? Bah, c'est pareil, c'est comme te demander de mesurer la taille d'un trou. T'enlèves noir, mais il y a différentes formes et différentes tailles de trous. Donc il y a des trous super massifs qui sont énormes, qui aspirent carrément des systèmes solaires entiers, et puis tu en as des tout petits. Et nous, on en a plusieurs dans notre galaxie à nous, il y a déjà plusieurs trous noirs, en fait.
Un trou noir, ça fait vraiment un trou dans la galaxie.
Ah,
je peux
expliquer. Ouais, vas-y.
Alors en fait, un trou noir, c'est pas un trou. C'est pas un trou. La galaxie, c'est vide, donc techniquement, il ne peut pas y avoir un trou dans rien. Un trou noir, en fait, c'est quelque chose qui va aspirer tout et qui va le désintégrer, tout simplement.
Le truc, c'est que c'est au départ, c'est un objet, comme elle le disait dans ta définition, tu l'as déjà. C'est un objet qui est super massif. Qu'est-ce que ça veut dire, un objet super massif ?
Quelque chose qui est puissant.
Ah, qui est super lourd déjà en lui-même. Donc ça peut être, vous voyez la Terre, vous imaginez comme c'est lourd.
Ouais.
Bon, vous voyez le Soleil, c'est encore plus gros que la Terre.
Oui.
Vous imaginez comme c'est encore plus lourd. Eh bien, il faut s'imaginer que là, le poids, va, on va dire, de, c'est un exemple, hein, mais le poids du Soleil, il est réuni dans une tête d'épingle. Vous voyez une tête d'épingle ?
Oui.
La tête d'épingle, elle pèse le poids du Soleil. Vous imaginez comme elle est lourde, cette tête d'épingle-là ?
Ouais.
Et on a parlé dans une émission, dans un des ateliers de cette semaine, de la gravité. Quand un objet est très, 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 très lourd comme ça, mais même s'il est très petit, il va attirer tout ce qui est autour de lui. Et du coup, il y a les planètes qui vont tourner très, très vite autour de lui et puis qui vont s'écraser dedans. Et ça va rajouter du poids encore. Mais tout est hyper compressé. Et c'est tellement, tellement, tellement attirant que la lumière est attirée par la masse de cette tête d'épingle.
C'est ça. Et du coup, en fait, un trou noir supermassif fait environ 1 million de fois la masse du Soleil. Ça y est.
Voilà. Donc 1 million de fois le poids, on va dire, enfin la masse, effectivement, du Soleil, mais dans une tête d'épingle. Donc vous imaginez à quel point c'est hyper énorme, mais tout petit.
C'est lourd.
Et ouais, c'est super lourd. Et c'est pour ça que ça nous attire comme un aimant, en fait.
Du coup, les petits trous noirs. Du coup, ce que tu as dit qu'on trouvait à peu près partout dans notre galaxie, ceux-là font seulement 20 à 50 fois la masse du Soleil.
Seulement. Voilà.
Bah, quand on voit 1 million.
Ça fait rêver. Voilà. En tout cas, merci Elina. Pas Elina, Keïsa. C'était franchement pas évident, mais tu t'en es. plutôt ouais. mal sorti, plutôt pas mal sorti, je vais y arriver.
Plutôt mal sorti.
Ah, je suis fatigué.
C'est lapsus.
Ouais. Mais alors, est-ce que vous avez un petit peu mieux compris, en tout cas, comment ça se passe ces fameux trous noirs?
Bah
ouais. Ouais. Keïsa, est-ce que t'as chopé maintenant l'idée que c'est? Est-ce que tu vois mieux comment ça se passe un trou noir? Ouais, ok, ça marche. Allez, on va terminer cette émission. Ah ouais, Nathan, tu veux un dernier truc?
Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Mais du coup, c'est dommage qu'il n'y aurait pas un humain qui saute dans un trou noir.
Ah, alors ça, faudrait que tu regardes Interstellar et peut-être que tu auras un début de réponse.
Ça, ou même regarde tout simplement la vidéo sur YouTube de Poisson Fécond.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait si on tombe dans un trou noir et tu sauras alors pourquoi on ne peut pas. Dès qu'on tombe dans un trou noir, aucune information peut ressortir et personne ne peut ressortir d'un trou noir.
Pourquoi ils mettent pas un objet dans un trou noir et voir s'il ressort
Il va pas ressortir.
Il peut pas ressortir parce que justement, comme on expliquait tout à l'heure, la masse, elle est tellement énorme, ça pèse tellement lourd que c'est comme un aimant. Imagine, la lumière est aspirée.
Mais du coup, il y a quoi à l'intérieur d'un trou noir ?
Eh ben, il y a de la matière hyper comprimée, hyper compressée. C'est pour ça que c'est super lourd. Et ça n'arrête pas de grossir parce que ça prend... Et je crois qu'après, au bout d'un moment, le trou noir est tellement dense...
Qu'il explose
lui-même et ça refait des planètes.
Et ce qu'il y a, en fait, c'est que quand le trou noir...
Il y a plein de questions là parce que tu vois.
Attends, j'explique ça. C'est quand le trou noir, comment on appelle le grand là déjà ?
Le supermassif.
Supermassif explose. T'as déjà entendu parler du Big Bang ?
Ah oui, bah oui.
Qui a créé toutes les planètes.
Et
bah en fait, c'est l'explosion d'un trou noir supermassif qui a été trop chargé en masse et qui s'est écrasé sur lui-même en fait.
A priori. On pense que ça peut être ça. Okay. On pense parce que, évidemment, il n'y a rien de sûr dans tout ce qui est avancé à ce niveau-là.
Mais c'est
alors,
l'explication la plus
attends,
plausible.
Ça s'embrouille au niveau du micro. Qu'est-ce qui se passe ?
Oh là là.
Il y a quoi derrière la galaxie ? Derrière le trou noir.
Ah, derrière le trou noir. Alors ouais, ça fait un phénomène de loupe, en fait. C'est très, très compliqué parce que, en fait, comme la lumière, elle est absorbée, etc., on voit le trou noir en face, comme disait Thomas, avec nos petits télescopes, etc. On sait ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait, les trous noirs, en plus, ils se déplacent parfois. Donc, on sait à peu près ce qu'il y a derrière, mais la réalité, elle est un peu déformée. Donc, mais c'est une bonne question. Il faudrait demander à des vrais scientifiques, parce que nous...
Est-ce que... Il est placé où le trou noir ?
Il y en a plein partout. On en a dans notre galaxie, il y en a partout dans l'univers, en fait.
Le plus gros, du coup, comme tu as dit, Sagittaire à étoile, il est au centre de la galaxie.
Et je crois qu'il y a Elina qui veut poser des questions aussi.
Pourquoi les objets, ils n'arrivent pas à aller dans le trou noir ?
Ah non, ils y vont, mais ils y ressortent pas.
Ouais, c'est surtout ça, ils arrivent pas à en ressortir. Alors le trou noir, là, il y a eu un engouement sur le sujet. Il va falloir vraiment qu'on clôt ce sujet-là. On va passer à Clément, ça va ? T'as eu le temps ?
Ah oui, j'aurais pu aller...
Ok, on va parler des milliardaires, on va revenir sur la Terre après tous ces échanges intergalactiques, etc. On va s'intéresser justement à... toute cette évolution des visites dans l'espace, tout ce qui nous permet d'avancer encore dans l'espace. La parole est à toi sur les milliardaires qui s'amusent dans l'espace.
Depuis les premiers vols dans l'espace, il existe une fascination pour cette aventure spatiale. Mais faute d'argent, les milliardaires ont pris la place de la NASA. Virgin,
ouais.
Amazon et Tesla sont des entreprises privées qui ont créé leur propre fusée. Certains veulent aller visiter l'espace, créer des hôtels et s'installer sur Mars. Ça paraît un caprice d'enfant, mais ça fait augmenter la science et notre quotidien. Comme les recherches vestimentaires, les moyens de communication et même les brosses à dents.
Et ouais, même jusqu'à nos brosses à dents.
Vous écoutez Radar.
Et ouais, vous écoutez Radar et vous écoutez Clémence qui vient de nous parler des milliardaires qui, à la fois, on a l'impression qu'ils s'amusent un petit peu avec leurs sous. Et puis en même temps, mine de rien, heureusement qu'ils sont là parce que sinon, notre petit téléphone, il ne serait pas aussi évolué que ça, par exemple, je pense. C'est ça. Est-ce que vous avez entendu parler un petit peu de ce qui se fait actuellement dans l'espace ? Alors, il y a Nathan qui a levé le bras. Vas-y, tu peux lui donner un peu le...
Alors, ce n'est pas pour ce qui se passe dans l'espace, c'est... en gros, s'il n'y aurait pas tous ces milliardaires qui veulent voyager dans l'espace ou quoi,
ouais.
On n'aurait pas certaines choses qu'on a sur Terre.
Bah, déjà, oui. Et puis, on n'aurait pas pu envoyer Thomas Pesquet déjà dans l'ISS, parce que c'est grâce à Elon Musk et le programme SpaceX qu'on a pu l'envoyer là-haut avec les vaisseaux récupérables. On en a parlé déjà un petit peu hier après-midi avec toi. Keïsa ?
Si, par exemple, si on jette un téléphone dans le trou noir.
On est revenu sur le trou noir.
Ça fait quoi ?
C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est que quel que soit, tu peux mettre une souris morte, ce que tu veux dedans, ça revient pas, c'est
non,
absorbé,
ça revient pas.
C'est foutu.
Ça fait rien.
Allez, les milliardaires, on clôt le sujet là-dessus. Donc, les évolutions technologiques, ça, c'est une belle chose. Alors, à votre avis, comment ça se fait que d'un coup, les milliardaires se réveillent et se disent « Tiens, si on allait tous dans l'espace, parce qu'ils ne sont pas forcément obligés d'avoir tous la même passion, comment ça se fait que c'est la mode ?»
Grâce à Thomas Pesquet, ils se sont peut-être un peu plus intéressés.
Alors, peut-être. Peut-être qu'il y a ça, mais je pense que ça a été un peu insufflé déjà par Elon Musk avec cette association par la NASA.
Ce qui est, c'est que Thomas Pesquet, c'est un Français. Et eux, ils ne sont pas forcément passionnés
par les
Français. Astronautes français.
Non,
eux, ils sont plus intéressés par vraiment l'espace. Et pourquoi ? C'est Elon Musk qui a commencé la conquête spatiale avec ses sous.
Ouais.
Il a commencé, je crois, c'est en 2000...
2012, je crois, quelque chose comme
non,
ça.
Non, plutôt, lui.
Plutôt encore que ça. Ah attends,
2009.
Thomas,
2009.
Il a...
Attention. Alors,
ah non, c'est Virgin, effectivement.
C'est Virgin,
oui, oui.
Le premier ?
Ouais.
Et c'est en 2009 ?
Le premier, c'est
2009.
Virgin, d'accord.
C'est en 2009.
Ok, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils s'intéressent tous d'un coup à vouloir aller dans l'espace ? Ça ? Alors, Nathan, t'as une idée ?
Peut-être pour créer une sorte de nouvelle ville dans d'autres planètes, comme sur Mars, par exemple.
Ouais, alors je sais que Elon Musk, c'est Jeff Bezos qui veut faire des hôtels volants, enfin des hôtels spatiaux. Elon Musk, c'est peut-être le plus sérieux parce que lui, en fait, il fait surtout de la navette récupérable. Il va dans l'amélioration technologique. C'est lui qui a fait évoluer les combinaisons des spationautes qui soient plus légers, plus solides, plus faciles à utiliser.
C'est ce que
utiliser.
Je disais avec les recherches vestimentaires, c'est pour trouver des vêtements plus légers.
Voilà, c'est ça, ouais. Et puis qui protègent mieux. Y en a d'ailleurs qui sont appliqués pour faire des combis de moto, par exemple. Thomas, tu voulais rajouter un truc, je crois.
Alors, par rapport aux entreprises, pourquoi les entreprises privées arrivent dans l'espace ? C'est juste parce que, on va dire que tout ce qui est NASA, tout ce qui est programme de recherche, ils ont eu des problèmes de sous à un moment donné, parce qu'il n'y avait plus trop de sous, et les entreprises privées se sont dit, là, c'est le moment de se lancer dans ce projet-là, parce que c'est une envie.
Donc c'est une sorte de mécénat,
voilà,
pour aider les entreprises spatiales qui ont du plomb dans l'aile au niveau des sous, quoi.
Mmh.
Et heureusement qu'ils sont là aussi, parce que mine de rien, c'est un peu grâce à eux qu'on va peut-être pouvoir faire des bases lunaires, c'est un peu grâce à eux qu'on va peut-être pouvoir poser le pied sur Mars aussi un jour. Donc...
Oui, c'est pour ça. Et puis améliorer aussi tout le quotidien qui commence à arriver grâce à ces nouvelles recherches.
Ouais. Alors les enfants, est-ce que vous imaginez que, allez, on va dire 2030, 2040, donc quand vous aurez une cinquantaine d'années, est-ce que vous imaginez que...
En 2040, ils auront 50 ans.
Ils ont 10 ans à peu près.
Ils sont nés en 2010, par là, ils auront 20 ans, 30 ans.
Oui.
Ouais, alors vas-y. Non, mais j'ai mal fait mon calcul, mais c'est pas grave.
Oui.
Non, mais l'idée, c'est qu'une fois adulte, vous allez certainement voir à la télé des retransmissions de choses qui vont se passer sur Mars. Est-ce que vous imaginez ça un peu ?
Je
sais pas. Je te pique le micro, il était en train de parler. Hein.
C'est même pas un coupage de parole, là, c'est un coupage de micro.
Répète ta question du coup.
Eh ben, est-ce que vous imaginez que quand vous serez grand, vous verrez à la télé des émissions qui se passent sur Mars, des gens qui vont vous parler de Mars?
En vrai, c'est possible. C'est possible, mais en fait, c'est possible et en même temps pas possible. Il y a moyen que ça se passe en fait.
Il y a moyen que ça se passe. Toi, t'y crois plus ou moins?
Oui.
Ouais. Alors, Elina, tout le monde veut donner son avis là.
Qui avait levé la main.
Ouais, alors vas-y.
J'espère. Et moi aussi, j'espère d'aller aussi sur Mars.
Ah, t'aimerais bien toi y aller carrément?
Bah oui, pour voir ce qu'il y a sur Mars.
Ah.
Bah si ça se trouve.
Clémence.
Quand on sera adulte,
ouais.
On sera sur Mars si ça se trouve.
Ah.
Ils auront créé des choses pour qu'on puisse aller sur Mars.
Peut-être. Peut-être. Donc, alors, par contre, les places vont être chères. Hein. Les prix des billets.
C'est sûr.
Ça va être quelque chose d'aller faire du toboggan sur Mars et de l'aquasplash.
C'est ça.
Ça va être compliqué. Mais ouais, vous imaginez déjà partir sur Mars, en fait, vivre, faire une colonie là-haut. Alors, il y a Thomas qui va prendre un peu
là. Après, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez, par exemple, envie d'aller dans l'espace?
Ouais, tout simplement déjà.
Oui, beaucoup.
Ouais.
Moi, oui, en vrai, ça m'intéresse.
Ça vous fait pas peur?
Non. Moi, j'ai peur.
Toi, t'as peur?
Ouais.
T'as peur de quoi?
Tu vois, dès qu'on a le casque sur nous, là,
ouais.
J'ai peur que ça se casse. Et...
Ah oui, d'accord. T'as peur que le hublot, il pète et
ouais.
Du coup, hop, t'es mort.
Ouais, ouais, j'aimerais pas forcément aller dans l'espace, mais j'avoue que je suis frais, c'est juste être en apesanteur. J'aimerais bien genre faire l'avion, tu sais, G0, là,
ouais, ouais.
Qui est de Toulouse ou quoi. Tu vois, genre, ça va pas dans l'espace. Mais ça te met dans les conditions d'apesanteur et ça, je kifferais, tu vois. Genre, tu flottes et tout.
Mmh, mmh.
C'est stylé.
Bah, moi, j'ai un peu peur, mais pas que ça se casse et qu'on reste là-bas.
Ouais.
Moi, j'ai plutôt peur, en fait, parce que sur Mars, il y a des genres de trous comme des volcans.
Ouais.
J'ai peur que, vu que tout, à peu près toutes les planètes, le noyau, c'est du feu,
ouais.
De la lave. Et j'ai peur que du coup il y a du feu qui sorte et du coup
à ce moment-là tu peux très bien avoir peur de vivre sur Terre parce que des volcans on a des tempêtes.
C'est
sur
ça.
Mars il y a des tempêtes de sable, il y a des déserts, il y a des températures extrêmes, mais on s'en accommode justement, on arrive à s'adapter, on s'adapte
du
à
coup,
tout.
Elina.
J'aimerais être en apesanteur, mais voler dans l'espace, pas forcément chez moi ou
ouais.
Carrément dans l'espace.
Passer carrément le cap de l'espace. Ouais. Quoi.
Moi, je pense que pour carrément faire un Mars d'une planète Terre avec de quoi vivre,
ouais.
Je pense que ça prendrait beaucoup de temps.
Ça peut prendre beaucoup de temps et en même temps ça peut être assez rapide parce que l'idée du programme spatial, excuse-moi Warren, mais normalement la grande idée autour de laquelle tout le monde s'accorde à peu près pour arriver sur Mars, c'est d'abord de faire une première base sur la Lune et ensuite, parce que le voyage de la Lune vers Mars sera beaucoup plus court, donc si on peut faire des lanceurs directement de la Lune, ça va nous faciliter la tâche après pour pouvoir emmener du matériel et commencer à se mettre en place.
Du coup, vas-y, je voulais
précision
dire quelque chose.
De Warren.
C'est une petite c'est un petit truc que je dis.
Vas-y.
Alors, est-ce que vous pensez que c'est bien que l'homme aille sur Mars? Car il a déjà tué sa planète. Est-ce qu'il va aller sur une autre pour en tuer une autre? Tu vois,
c'est un bon débat aussi ça.
Est-ce que oui,
alors.
Vas-y.
En vrai, je trouve ça mal de détruire une autre planète pour la polluer ou des choses comme ça.
Ouais, mais est-ce qu'on ferait exactement les mêmes erreurs?
J'espère pas.
Ah.
Moi, en vrai, non. Mais ce que je proposerais, c'est que sur Mars, on n'ait pas trop de trucs pour polluer.
Ouais.
genre on a de quoi vivre, genre de l'eau à manger et tout, mais genre pas, pas pour polluer.
Alors Clémence, elle a son idée là-dessus apparemment.
Bah, c'est pour ça que y a des personnes qui essayent de savoir comment on irait sur Mars et tout, parce qu'ils savent qu'on a fait n'importe quoi, que la planète est trop polluée, et du coup ils veulent aller sur une autre. Le problème c'est qu'après il faudra repartir sur une autre, parce que si ils font n'importe quoi encore sur une autre planète, ils la polluent, et bah après on devra repartir sur notre planète. Mais si ils polluent trop, après bah on n'aura plus de planète.
Et là commence la colonisation de l'espace par l'être humain.
Au prochain épisode, la colonisation de l'espace.
Keïsa, est-ce que tu as un petit avis sur le sujet ? Non, toi, tu restes neutre sur les petites choses. Il va falloir qu'on conclue une dernière petite intervention rapide.
Je pense que ça serait bien, comme ils ont fait à Thomas Pesquet, pour manger au cas où il n'y a pas de poubelle, de faire des déchets qu'on pourrait manger.
Ouais,
Ils sont en train de réfléchir.
Ouais,
plastique biodégradable, etc.
Ok.
Tu peux être utilisé.
Ça serait bien.
Un dernier mot.
Je trouve que l'idée d'Elina, elle est
pas
bien.
Mal. Voilà. Ok. Bon, on va envoyer la suggestion. Ouais, Keïsa. Alors là, pour le coup, t'es d'accord.
Vas-y.
Ouais. Elle disait oui.
J'ai dit oui.
Voilà.
Ah, ok.
Elle a dit oui. Elle valide l'idée. Effectivement. Voilà. On arrive.
On arrive au terme de l'émission.
Exactement, à la fin de ce cycle sur l'espace avec le service jeunesse de la ville de Fécamp à l'école Albert Camus. C'était vraiment super de vous avoir tous et d'autant plus encore aujourd'hui avec, comme on disait, l'élite de la crème de la crème. Merci donc à Nathan, Elina, Keïsa. Clémence, alors, merci à Thomas et toute l'équipe aussi, Fabien, et puis du service animation jeunesse. Merci à l'école Albert Camus de nous avoir reçus. Warren, merci de ta présence. C'est toujours
mais pourquoi je me dis une émission, je viens.
Mais voilà, mais t'as bien raison. Et puis les enfants, alors là, ça lève encore les mains. Alors, le mot de la fin pour chacun. Nathan.
Un mot.
Alors, moi, j'ai trouvé encore ce moment. Bien, j'ai adoré. Et si je pourrais revenir sur
des prochaines émissions.
Ouais, sur des prochaines émissions, je viendrai.
Eh écoute, ce sera avec grand plaisir en tout cas. C'était vraiment super. Clémence.
Moi, j'aimerais bien aussi revenir, peut-être même plus tard en faire mon métier, parce que j'aime vraiment.
Naissance d'une vocation.
J'aime vraiment pouvoir. Dire si je suis d'accord ou pas, pouvoir m'exprimer librement sans que personne te dise « Ah non, ça non !»
Échanger, avoir des avis, etc. Puis s'intéresser à des sujets en plus.
En plus, faire les recherches et apprendre des choses en même temps.
C'est ça qui est cool. Merci de ton témoignage en tout cas, Clément, ça fait super plaisir.
Elina,
moi, j'aime bien la radio, mais pas en faire ma passion, mon métier.
Mais c'est pas très très grave. En tout cas, si t'aimes bien, c'est déjà bien. Et puis même si t'aimes pas, c'est pas grave.
Chacun ses passions.
En tout cas, tu t'es vachement bien débrouillé.
Keïsa, un dernier petit mot.
Merci.
Voilà.
Keïsa, elle est timide, mais elle a combattu sa timidité.
Je dis un petit mot, c'est la seule qui a dit un petit mot.
Elle a fait un petit mot. En tout cas, vous êtes super bien débrouillés, comme des chefs. Chacun a fait vraiment comme il a pu. Bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir, ça fait plaisir de temps en temps aussi. C'était vraiment super. Merci à vous de nous avoir suivis à la rentrée. D'autres ateliers auront lieu.
D'autres émissions.
D'autres émissions. Et puis, les ateliers auront lieu dans différentes structures. On retravaillera encore avec le service jeunesse. Il y aura la MJC aussi qui sera là. Il y aura certainement Fécamp Plus avec qui on va faire des choses. Bref, les ateliers, c'est jamais fini. D'ici là, portez-vous bien, passez des bonnes vacances et bonnes vacances justement à l'écoute des programmes de Radar. Qu'est-ce qu'il dit ?
Je peux me faire un plaisir.
Vas-y.
Et à trois, vous dites bonjour tous. Un, deux, trois.
Bonjour !
L'atelier.
Moi, je dis rien, moi. Il n'y a rien à dire.
On apprend à faire de la radio sur Radar.
L'atelier.
On fait du bricolage.
Wait. Hold it.
L'atelier.